Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission Folie douce sur Canal M. C'est une émission qui existe déjà depuis longtemps, on va tout vous expliquer ça dans quelques minutes, mais on est très heureux et très privilégiés d'être ici. Aujourd'hui à l'émission, on aura le docteur Yves Lamontagne, un psychiatre bien connu, qui va nous parler de sa vision de la santé mentale d'hier, d'aujourd'hui et de demain. On a également l'espresso, la santé mentale au masculin. On va évidemment vous expliquer qui nous sommes et vous allez finalement tout savoir sur Folie douce. On commence d'abord en chanson avec Amélie. Et la chanson s'intitule « Que je m'envole ». Bienvenue à Folie douce.
Branché sur Folie douce, soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle.
Et voilà, toute nouvelle émission pour Canal M. Bien heureux d'être avec vous ici, Yvan Bugeaud. Je suis en compagnie de Ghislain Malot. Bonjour, Ghislain.
Bonjour.
Et je suis en compagnie également de Pierre Laporte. Bonjour, Pierre.
Salut, Yvan.
Alors, un nouveau départ pour nous ici à Canal M. L'émission existe quand même depuis longtemps. Folie douce, c'est une émission qui s'intéresse à la santé mentale, qui essaie de faire tomber les tabous, qui démystifie finalement les problématiques de santé mentale. C'est très vaste. C'est une émission qui est en onde depuis 1991 à la radio montréalaise. On est bien content et honoré en fait d'avoir notre chance de pouvoir vous parler à Canal M.
Oui, pas mal plaisant d'être ici.
Je remercie tous les employés, tout le personnel de Canal M, principalement Marc Britton, directeur général, ainsi que Jean-Sébastien Laliberté, qui nous aide beaucoup au niveau de l'intégration de cette émission dans la grille horaire de Canal M.
Il y a Mathieu aussi.
Oui, Mathieu également, un fier travailleur qui nous aide au niveau technique. Donc, on remercie bien les gens. Mais pour situer un peu Folie douce, en fait, c'est une émission qui, justement, veut parler de folie en douceur. C'est un peu ça le nom, là. Dans le fond, on parle de folie, mais on fait un peu une boutade parce qu'on sait bien que la santé mentale, justement, c'est souvent perçu comme de la folie. Ce qui est rapporté dans les médias, c'est souvent un peu le côté spectaculaire de la chose, alors qu'on essaie d'aller chercher les invités qui vont démystifier la cause, qui vont démystifier les problématiques. Et c'est un peu ce qui nous tient pendant toutes ces années. Ghislain et Pierre se sont joints à moi il y a plus de 20 ans. En fait, Ghislain, tu peux dire quelques mots peut-être?
Oui, moi je suis recherchiste, je trouve des invités.
Exactement.
Je suis là depuis l'émission quand j'étais un jeune homme fringant.
On a tous un peu vieilli, mais on a gardé quand même notre...
Oui. En général, c'est de trouver les invités. On peut réitérer l'offre, dire ici, si les gens veulent nous communiquer pour s'ils ont des sujets sur la santé mentale et ça les intéresserait de participer à l'émission, on est toujours le bienvenu.
La façon très simple, c'est de se brancher sur notre site web, antenne au singulier, comme une antenne de radio, antenne.qc.ca. Et là, vous avez les liens pour pouvoir communiquer avec nous. Pierre, dans ton cas, tu t'occupes de la mise en onde, t'es compositeur musical, le thème musical de l'émission, les thèmes des indicatifs qu'on entend, et tu collabores également au micro pour les blocs Espresso, donc peut-être tes commentaires un peu sur
ça. Moi, je me suis joint à l'émission un peu avant Ghislain. Moi, c'était à l'automne 96.
Oui, donc...
Je me rappelle, puis j'avais le goût... en fait, c'était... de faire de la radio qui m'attirait, de pouvoir faire des compositions musicales puis de pouvoir lancer ça sur les ondes. Mais c'était pas seulement le sujet qui m'intéressait, mais c'était l'expérience en général. Mais une chose que j'ai beaucoup aimée dès le début, c'est quand on reçoit des messages des gens qui prennent la peine de nous téléphoner ou de nous envoyer des emails pour nous dire qu'on les a aidés d'une certaine façon. On a aidé des parents, par exemple, à pouvoir à s'apercevoir que leur enfant avait des troubles, des problèmes liés à la santé mentale. Ouais. Donc, ça m'a fait plaisir de voir qu'on avait vraiment une utilité et il y avait un public aussi pour écouter ces sujets-là.
Oui, c'est sûr que la santé mentale, ça reste un sujet tabou, quoi qu'on en dise. Il y a beaucoup de préjugés. On pense toujours que c'est pas pour nous puis ça va toucher autres personnes, mais les statistiques montrent que beaucoup de personnes sont touchées dans leur vie. Il y a comme 20% de la population qui aura dans sa vie à faire face à une problématique de santé mentale, que ce soit une dépression, que ce soit autre chose. Et le reste du 80%, bien finalement, va sûrement être témoin de ça parce que c'est un de leurs proches ou quelqu'un de leur famille. Là.
Mais souvent, on se pose la question, est-ce que c'est moins tabou que v'là 25 ans, par exemple?
C'est moins tabou, je pense, mais on a encore un bon bout de chemin à faire. C'est sûr qu'en 91, quand on a commencé à faire à parler de santé mentale, on partait de loin. Il y avait beaucoup moins de gens qui s'affichaient, si on veut, ou qui pouvaient en parler ouvertement. Mais aujourd'hui, il y a encore du tabou. Il y a encore des fois des blagues de mauvais goût qui sont faites. Faites auprès des gens qui ont des problèmes de santé mentale.
Je pense que le fait, mais tu en as parlé un peu, c'est qu'il y a maintenant des personnalités publiques qui en parlent, qui parlent de leurs difficultés, qui n'ont pas honte d'en parler.
Ça a aidé beaucoup. Ouais. Pour dire aussi le contenu un peu de l'émission, les gens vont apprendre à nous connaître. Justement, c'est une première émission à Canal M, mais on espère d'être avec vous de très nombreuses années. Dans le contenu, habituellement, comment ça se présente, c'est qu'on a deux invités ou chroniqueurs et invités, c'est comme les deux segments principaux. Et on a aussi tes blocs à toi qu'on a appelé Espresso et Espresso allongé, où c'est plus une chronique, donc sur un sujet un peu comme aujourd'hui sur la santé mentale au masculin. Oui. Donc, c'est des sujets qui viennent comme compléter l'information. Puis les invités qu'on a, c'est soit quelqu'un du milieu hospitalier comme le docteur Yves Lamontagne aujourd'hui, mais on peut avoir des gens d'organismes communautaires, on peut avoir des gens qui s'impliquent, ça peut être des proches de quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale.
On ne discrimine pas, on accepte dire les gens de tout milieu et de tout provenance.
Absolument.
On est un peu comme la Suisse, dans le sens qu'on permet à tout le monde de parler. On est un territoire neutre, on permet à tout le monde de parler du sujet de la santé mentale.
Et quelquefois, les gens nous disent, ben, ça fait 26 ans, 27 ans que vous faites de la radio sur la santé mentale, vous venez pas à bout, hein, on est dans des sujets. Non, justement. Et c'est, et quand j'ai commencé l'émission, je croyais jamais qu'on allait faire autant d'années. J'avais aucune idée. Et on se rend compte après 10 ans, bon, on est toujours encore là et on continue à trouver des sujets. Il semble toujours y avoir des sujets qui s'ajoutent et des nouvelles études,
oui,
des nouvelles...
Mais justement, il y a toujours du progrès qui se fait. Hein. Du côté médical, on trouve de nouvelles médications, on fait des progrès dans les diagnostics, donc ça progresse tout le temps.
Et il y a des alternatives aussi, tu sais, parce qu'ici, on va parler un peu de tout. Il y a le côté, oui, médication, soins hospitaliers, mais il y a aussi tout ce qui vient à côté, parce que ça prend un tout pour se rétablir de la santé mentale.
Tout le monde est bienvenu.
Absolument. Et on vous réitère, donc, notre invitation, si les gens veulent, on sait qu'on est diffusé, d'ailleurs, à travers le Canada. Donc, on invite tous les gens qui voudraient rentrer en communication avec nous, donc, pour proposer des sujets ou eux-mêmes peut-être participer à notre émission. Vous pouvez le faire en vous rendant sur notre site web, antenne.qc.ca, antenne au singulier, .qc.ca. Et il y a un onglet, là, pour nous joindre. Donc, vous pouvez à ce moment-là nous écrire ou nous téléphoner, tout dépend de votre préférence. Donc, merci, Ghislain. Merci, Pierre.
Merci.
On s'arrête en chanson et on poursuit donc l'émission Folie douce. Demeurez des nôtres.
Family situation. Knee deep in togetherness.
All I got, all I got is my dreaming. To complain about it, hey, that's right. And I ain't got nothing I can't try to watch the lion roaming through the day, changing lanes till I hit your right for loving. Ain't nothing but a game, caught behind the rain, everything the same. But life is good.
Nous apprécions toujours vos commentaires par téléphone. Composez le 514-990-9604 dans le 514-990-9604.
J'ai le plaisir d'être en compagnie de notre invité, Dr Yves Lamontagne. Bonjour, Dr Lamontagne.
Oui, bonjour.
Bienvenue à notre émission Folie douce et merci de nous recevoir.
Merci à vous.
C'est un spécial. On n'est pas en studio, mais on est vraiment bien reçus. Merci beaucoup de votre part. On voulait justement vous avoir parce que vous êtes quelqu'un qui a vécu pas mal de choses au Québec, pas mal de choses en rapport avec la santé mentale. Vous êtes psychiatre de formation. Vous avez fait votre liste de... Votre CV est très impressionnant. Vous avez fait une vie vraiment bien remplie qui n'est pas finie. Loin de là, vous faites encore des conférences, puis vous pouvez faire bénéficier les gens de votre expérience. En début, en fait, vous avez beaucoup été associé, disons, à l'hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine. Vous avez même été le président directeur général du Collège des médecins, en plus d'être le président de l'Association des médecins psychiatres du Québec. Et plusieurs organismes ont été fondés aussi avec votre initiative. Mais j'aimerais juste, comme peut-être ensemble, de définir ce que c'est la psychiatrie. Tu sais, des fois, on entend ça, la psychiatrie, mais c'est quoi en réalité la psychiatrie? C'est une vaste question, mais comment vous la voyez?
Moi, je vous dirais que... Je vais me placer autrement. Comment je suis venu à la psychiatrie?
OK.
Moi, apparemment, j'avais des dons pour faire de la chirurgie avec mes mains. Mais je trouvais qu'une fois que tu as fait un appendicite, tu en as fait 1000, c'est la même affaire. Alors qu'en psychiatrie, chaque cas est différent. Et l'ensemble de la psychiatrie amène à aider, en tout cas, quelqu'un qui est curieux comme moi. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en psychiatrie, idéalement, vous avez besoin de la sociologie, vous avez besoin de l'anthropologie, vous avez besoin de l'étude même chez les animaux, vous avez besoin même de la musicothérapie. Vous avez différentes façons d'intervenir avec un patient. Moi, je suis spécialiste en thérapie comportementale et cognitive. Donc, vous voyez, c'est complètement ouvert et ça amène, au fond, à essayer de développer des instruments qui vont jouer dans tous ces secteurs-là. Et c'est pour ça qu'au centre de recherche, entre autres, moi, j'avais prôné, j'appelais ça le biopsychosocial. Et je disais toujours à mes étudiants, le malade, il y a un côté biologique. Ça, c'est la pharmacologie. Il y a un côté psychologique. Donc, on a développé également des techniques psychologiques, exemple de relaxation, de thérapie comportementale. Puis, il y a des aspects sociaux. Et je leur disais tout le temps, vous avez beau traiter une madame qui fait une dépression profonde avec le meilleur des médicaments, avec la meilleure psychothérapie, mais vous l'envoyez vivre dans un ghetto où son mari, là-bas, une fois par semaine, vous allez la traiter longtemps. Donc, vous voyez, biopsychosocial. Mm-hmm. Et souvent, je le dis, c'est comme le traitement de la grippe. Hein? Prenez beaucoup d'eau, prenez des médicaments, puis reposez-vous. Biopsychosocial.
Ouais.
Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vois et que je voyais la psychiatrie. Il n'y a pas un traitement unique. Puis en psychiatrie, je dirais comme en médecine, il n'y a pas de vérité. Quelqu'un qui a la vérité, là, je dis, il faudrait le trouver, mais il n'y en a pas de vérité.
Dans le fond, vous êtes toujours un peu en train de confronter un peu de dire comment on peut faire mieux.
Exact.
C'est ça, on veut toujours s'améliorer.
Tout à fait.
Mais est-ce que c'était clair quand vous avez étudié en médecine? Parce que c'est ça, les médecins qui deviennent un spécialiste, dans le fond, choisissent à mener une branche, puis c'est pas toujours clair. Est-ce que ça a été clair et net que c'était la psychiatrie, et puis ça a été rapide dans votre choix?
Bien, il faut dire, oui, c'était rapide parce que probablement j'ai été marqué par ça. Il faut vous dire que mon père était assistant curateur public pour la province.
Okay.
Donc, il faisait affaire avec la psychiatrie beaucoup,
ouais.
Avec Louis H. Lafontaine beaucoup. Donc, à 16 ans, j'ai pu avoir un job d'été à Louis H. Lafontaine comme préposé aux malades. Et j'étais très chanceux parce qu'il ne prenait pas personne en bas de 21 ans à ce moment-là.
J'en avais vu des
mais
cas.
Mais évidemment, ouais. Mon père étant assistant curateur, ça aidait. Et en plus, on avait une cousine qui était sœur de la Providence à Saint-Jean-de-Dieu.
Ouais.
Donc, quand j'ai vécu là-dedans pendant un été de temps, je regardais les malades, etc., ben moi, je me demandais toujours comment ça peut se passer dans leur tête. Et au fond, à la fin de mes études de médecine, c'est comme ça que j'ai décidé d'aller en psychiatrie. Au fond, j'aurais pu me dire, je vais aller en neurologie pour la tête, mais la psychiatrie m'intéressait davantage à cause des variables que je vous disais tantôt.
C'est ça.
Ça ouvrait un champ d'action beaucoup plus grand que si c'était juste le cerveau avec la neurologie.
Ouais, exactement.
Alors, c'est comme ça que j'ai décidé d'aller en psychiatrie.
Et vous ne l'avez jamais regretté? Ça a été une carrière...
Non, je comprends, je n'ai jamais regretté.
Si vous êtes à la retraite, je pense, comme psychiatre, ou est-ce que vous pratiquez
encore? Non, je ne fais pas de psychiatrie maintenant. Non, j'ai lâché après 25 ans, je pense que j'avais donné.
C'est ça.
Puis d'autant plus que il faudrait que je me recycle parce que j'ai été quand même 12 ans président du Collège de médecins.
Ouais.
Donc, après tout ce temps-là, je ne pourrais pas retourner à la clinique sans passer par un stage de perfectionnement.
Ouais.
Au niveau des psychothérapies, je pense que je suis encore capable. Au niveau de la médication, depuis 12 ans, ça a changé beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Ouais.
Ce que je ne connais plus maintenant.
Quelle sorte de portrait vous pouvez tracer? Parce que vous avez été psychiatre, je pense, à partir des années 70. Vous
oui.
avez commencé.
Oui.
Écoute, depuis 70 jusqu'aux années 2000, au moment où on se parle...
En fait, j'ai arrêté en 98.
98.
Parce que c'est là que j'ai été élu président.
Mais quand même, ça a été une période énorme en termes de changement.
Oui.
Comment vous pouvez brosser le tableau? T'sais, c'est peut-être une grande question, mais est-ce que ça... Parce qu'en 70, c'est qu'on était loin là, de la déstigmatisation et tout ça là, aussi.
Oui,
là.
Oui. Je vous dirais deux choses. Ce qui m'a amené à voir les changements, puis même à en faire des changements, c'est quand je suis revenu d'Angleterre en 1972. Moi, j'avais été chercher ma spécialité en thérapie comportementale avec le docteur Isaac Marks, qui était le pape de la behavior therapy. Et donc, j'arrivais avec une nouvelle technique. J'étais le premier psychiatre canadien à revenir avec ça.
Mm-hmm.
Donc, j'amenais un nouveau champ d'activité avec la thérapie comportementale. Deuxième des choses, c'est que je m'apercevais que du côté francophone versus le côté anglophone, on était moins développé en recherche. Le Douglas était beaucoup développé, le Allen Memorial était développé, puis nous autres, du côté francophone, on traînait de la patte.
Mm.
Alors, c'est là que je suis revenu comme chercheur au centre de recherche de Louis H. Et après, je suis devenu directeur du centre. Et c'est là que j'ai créé la Fondation des maladies mentales, en 80. Et en 80, quand je l'ai créé, je me suis dit, c'est justement, si les Anglais réussissent, je vois pourquoi nous autres, on ne réussirait pas. Premier but de la Fondation, justement, démystifier les maladies mentales. Deuxième, augmenter la recherche clinique, donc avec des patients. Et troisième, le but de bâtir un centre de recherche qui est devenu le Centre de recherche Fernand Séguin.
Qui a une réputation mondiale.
Oui, oui. Puis écoutez, à l'époque, moi, j'avais à peu près 16 chercheurs, puis ils sont rendus au-dessus de 70 maintenant.
Ouais.
Donc, vous voyez le développement qui s'est amené. Au niveau des changements dans l'esprit des gens, bien, vous avez tout à fait raison. Il y avait encore des tabous. Quand j'ai créé la Fondation en 80, il n'y a pas personne qui vous a amené sur mon conseil d'administration. Il me disait, toi, de cœur à montagne, j'ai personne dans ma famille qui a une maladie mentale, mais si je vais pour votre affaire, ils vont penser que j'ai une maladie mentale, puis c'est pas bon pour mon PR, mes relations publiques.
C'était honteux, là, c'est ça.
Ou je me retournais de bord, puis là, il y a quelqu'un que je savais, on m'avait dit que t'es l'homme d'affaires. Alors moi, j'arrivais là, tu sais, en poussant pas. Et là, on me disait, bien, docteur Lamontagne, peut-être que vous ne savez pas, mais moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui a une maladie mentale, mais personne ne le sait, puis je n'irai pas non plus, parce que si ça se sait, ça ne sera pas bon pour mes relations publiques.
C'est incroyable.
Donc, vous voyez, j'ai commencé ça avec des chums, finalement,
ouais.
des amis.
Oui.
Et avec deux gens du centre de recherche, mon adjoint administratif pour s'occuper de la gestion, puis Richard Boyer, sociologue. Donc, à nous trois, c'est là qu'on a créé la Fondation des maladies mentales. Et les premiers membres qui sont venus sur le conseil, bien évidemment, c'était pas des présidents de compagnie, j'ai pas besoin de vous dire. C'était déjà des ressources humaines de telle compagnie, des amis qu'on connaissait.
Ouais.
Puis tranquillement, quand on s'est développé, bien là, j'ai eu du gros monde. Là. J'ai eu déjà un président de Belge, j'ai eu un président de Gaz Métro. Là, ça marchait. Là.
Qu'est-ce qui a été la... Pouvez-vous mettre le doigt sur un moment ou une période où ça a comme changé, où les gens ont comme dit, ben oui, c'était tabou, mais on sentait qu'il y avait un avancement. Est-ce qu'on peut, tu sais, on parlait des années 80, mais...
Ouais, moi, je vous dirais, je vais remettre ça sur le dos de la Fondation.
Ouais.
Parce que le premier but étant la démystification, on s'est beaucoup impliqué dans les médias. Avec les maladies mentales, faire de... Les gens, vous savez, une fois que quand vous enseignez quelque chose à quelqu'un, ils apprennent.
Mm-hmm.
Mais encore faut-il leur enseigner, puis il faut aller à la bonne place pour leur enseigner.
Il faut leur dire la bonne façon aussi.
C'est ça. Alors moi, j'ai beaucoup poussé sur les médias là-dessus, pour qu'on passe dans les médias, pour faire de l'enseignement de la thérapie comportementale pour le grand public. Puis là, on allait chercher un bassin de population beaucoup plus grand.
Ouais.
Et on a été très... appelé, si vous voulez, à ce moment-là, à faire de l'enseignement dans les médias. Alors, autant moi, j'en faisais, autant que mes chercheurs en faisaient aussi. Et donc, pour moi, c'était important de jouer sur cet aspect-là.
Peut-être que ça faisait
changer les affaires.
Ça faisait peut-être l'affaire des médias, parce que, tu sais, on parle de folie, il y a toujours une petite curiosité, il y a toujours, tu sais, ça mousse les codes d'écoute, ou en tout cas, ça mousse l'intérêt. Hein, à quelque part, c'est juste de le faire de la bonne façon, puis de ne pas faire passer les gens pour plus fous qu'ils y sont, en fait.
Puis de façon étonnante, quand vous dites ça, il y a eu comme une période au début où ça marchait très fort, notre affaire. Puis après ça, il y a eu comme une baisse.
genre fin 80 peut-être, ou 90.
Moi, je vous dirais 90.
Il y avait comme un creux.
Là, vous voyez, récemment, ouais. je dirais, mettons, dans les 5 dernières années, ouais. ça recommence à monter. Exactement. Avec la dépression, avec le suicide, avec l'anxiété, burn-out.
Ouais.
Et là, que vous prenez, avec les, tous les trucs qui se passent aux États-Unis, où les jeunes tirent dans les écoles, puis les gens tirent à gauche, à droite, bien... Puis même ici, hein, je pense, oui. entre autres, l'itinérant là, qui s'était fait tirer par la police.
Exactement.
Alors, vous voyez, c'est un malade, ça. Donc, avec ces phénomènes-là qui se passent, ça fait en sorte que le besoin d'éducation, puis ça démystifie en même temps les maladies mentales. Dire, mais ces gens-là sont malades, puis il faudrait les traiter comme du monde.
Oui.
Alors, ça, je pense qu'il y a une remontée actuellement.
Oui. Docteur Lamontagne, donc, on vous remercie d'être avec nous. C'est fort intéressant de voir aussi votre expérience de plusieurs dizaines d'années en santé mentale. Un point sur, justement, l'avant, en fait, les relations entre le milieu communautaire, le monde médical, le gouvernement, ça a toujours été un peu à couteau tiré, surtout dans les années 80. On se disait, bien, on a besoin de... Il y a eu la désinstitutionnalisation, les gens qui sont allés dans la société, coupure de budget, pas nécessairement les ressources. Comment, comme psychiatre ou comme président du Collège des médecins, comment vous voyez ça à l'époque? Là, je pense que c'est un petit peu mieux. Je pense qu'on essaie de réparer, on essaie de donner un peu plus d'argent, de ressources pour les ressources communautaires, oui. mais l'espèce d'affrontement qu'il y avait, le voyez-vous comme ça?
Oui. Écoutez, l'argent, le problème, c'est que l'argent n'a jamais suivi le malade. Alors, ça, on disait ça dans
on
le temps.
On a coupé des lits, on coupait des accès.
On a sorti des patients des hôpitaux,
ouais.
puis on les a laissés dans la rue. Alors, c'est, moi, j'ai toujours dit, c'est pas nécessairement, puis encore maintenant, dans le système de santé, c'est pas nécessairement une question d'argent, c'est une question d'organisation. Et ça nous manque,
ouais.
d'avoir une organisation qui est solide. Avec les groupes communautaires, pendant un grand bout de temps, moi le premier, je vais vous avouer, parce que ça jouait des deux côtés, ça.
Ouais.
Avec les associations de défense du malade, bien, je pense que des fois, à l'époque, ils charriaient. Moi, je me suis déjà pris avec un représentant d'une association à la télévision, où l'intervieweuse donnait comme exemple un patient qui se promenait nu-pied à moins 20 en bas de zéro sur la rue Saint-Denis. Puis moi, je disais, ça n'a pas de bon sens, il faut le prendre puis l'amener à l'hôpital. Mmh. Et que le gars de l'association, non, c'est la liberté. Bien, moi, j'ai dit, écoute, c'est fini, deux jambes coupées, là, c'est bien beau la liberté, mais à un moment donné...
Quand c'est urgent, il y a quelque chose...
Là-dessus, ouais. on s'accrochait.
C'est ça, quoi, exactement, mais il y a eu beaucoup...
Mais là, c'est mieux. Là.
C'est mieux, tu sais, je me souviens, moi, dans nos débuts à Folie Douce, c'était ça, les gars, c'était comme un peu l'hôpital ou les médecins ouais. ou le monde hospitalier contre le monde communautaire.
En plein ça.
Puis c'est pas très correct, vrai. Parce que ça aide non. pas la personne.
Il faut travailler ensemble.
Exactement.
Ça s'est beaucoup amélioré avec la création, entre autres, des associations de parents et amis du malade mental.
Ouais.
Ça, c'est une autre histoire, puis ça s'est beaucoup amélioré, la collaboration entre le milieu médical et ces associations-là. Ouais.
C'est super intéressant. J'aimerais que vous restiez avec nous pour l'émission, parce que c'est vraiment... On va faire une deuxième partie. On a parlé un peu de votre carrière, tout ça. On va se tourner vers l'avenir. On va se tourner vers le présent et l'avenir dans la deuxième partie. Puis c'est fort intéressant de vous avoir avec nous, Dr. Yves Lamontagne.
Donc, ça fait plaisir.
Demeurez des nôtres à Folie Douce.
De retour au micro à Folie Douce pour en savoir plus sur les difficultés émotionnelles.
Bien voilà, de retour donc au micro et c'est l'espresso donc de Pierre Laporte. Bonjour Pierre.
Salut Yvan.
Bonjour Ghislain Malot.
Bonjour.
C'est notre blog justement qui permet de genre de chronique qui nous amène des sujets. Cette semaine, Pierre, tu nous parles de santé mentale au masculin.
Oui, un sujet dont on a déjà traité à l'émission.
Ouais. Qui est très important.
Qui est plutôt
par
tabou, mais ouais. je pense qu'il change un petit peu. Là,
oui. Ouais. Mais qui est toujours d'actualité.
Exactement.
En fait, c'est un article que j'ai pris sur Internet qui s'intitule « Santé mentale au masculin, aider les hommes à s'aider ». C'est d'après un article de M. Alexandre Vigneault du journal La Presse sur le site lapresse.ca. Et M. Vigneault commence en disant « Oui, les hommes québécois ont changé. Ceux de moins de 35 ans en particulier parlent de leurs émotions et s'investissent dans la conciliation travail-famille. Sauf que quand les choses ne tournent pas rond, ils ne sont pas plus capables de demander de l'aide que leurs aînés. Que faire? »
Parler de ses émotions, c'est pas la même chose que parler de ses problèmes.
Non, c'est vrai. Mais M. Vigneault pose la question, alors, changer les hommes, doit-on changer les hommes ou la manière de les aborder? Il y a Mario dans la quarantaine qui dit « J'étais en état de choc en repensant au moment où sa copine, enceinte de leur premier enfant, l'a quitté. Carl a aussi des souvenirs douloureux d'une rupture amoureuse ancienne. Il a dit « J'ai passé 2 ans à brailler et à regarder par la fenêtre », raconte le jeune homme. Alors, quand sa nouvelle blonde l'a largué il y a environ 18 mois, il n'a pas voulu répéter la même erreur. Il a cherché de l'aide. Oui,
c'est dur pour les hommes d'accepter la rupture. On n'a pas appris ça.
Oui, c'est vrai. Peut-être que ça ne s'apprend pas non plus. Ça se vit, mais c'est difficile.
C'est l'expérience qui fait peut-être qu'on est plus sage, comme justement celui dont tu nous parles.
Oui. Carl a appelé au CLSC sans succès. Il a dit « Si tu vas au CLSC, il faut que tu sois vraiment au bord du suicide pour qu'il te prenne. » Il poursuit, on lui a demandé s'il était suicidaire. Il a dit non. Alors, il a été avisé qu'il y avait 4 mois d'attente.
Wow.
De l'aide, il en avait besoin tout de suite. Alors, il a appelé une ligne d'écoute. Peut-être telle aide, il n'est plus certain. Mais il nous dit « J'ai braillé au téléphone et j'ai raconté mon histoire, mais au bout de 30 ou 45 minutes, je me suis fait dire que la consultation était finie. L'air encore stupéfait. » Il ajoute « J'ai trouvé ça ridicule ». Peu après, il a rappelé au CLSC. On lui a encore demandé s'il était suicidaire. Il ne l'était pas plus que la fois d'avant, mais il a insisté. Il trouvait horrible de se faire rejeter comme ça. Il dit déjà que c'est dur d'appeler.
Il aurait peut-être dû répondre oui, même si c'est pas vrai.
Peut-être. Peut-être.
Mais c'est beaucoup ça qu'on dit quelquefois.
Beaucoup de gens doivent le faire.
Ouais.
Carl poursuit en disant « Pour bien des hommes, demander de l'aide ne va pas de soi ». Les Québécois de sexe masculin veulent presque tous, soit à 85%, résoudre leurs problèmes seuls. A révélé d'ailleurs une enquête dirigée par M. Gilles Tremblay, qui est spécialiste de la condition masculine attaché à l'École des services sociaux de l'Université Laval. Plus encore, près de 60% d'entre eux refusent de demander de l'aide, même s'ils savent qu'ils en ont besoin. Et sur ce plan, les jeunes hommes ne font d'ailleurs pas mieux que leurs aînés. Mario dit « Il faut vraiment qu'il soit minuit moins une, parce qu'au début, on pense que ça va se régler tout seul. On pense tout le temps que ça va passer. » Et M. Philippe Roy, qui est spécialiste de la prévention du suicide et de la santé mentale au masculin, dit « La souffrance n'est ni masculine ni féminine. Ce qu'il faut comprendre, par contre, c'est que l'expression de la souffrance est très socio-culturelle. » Maintenant, oui.
Non, c'est juste aussi, c'est la manière aussi qu'on aborde les hommes avec leurs problèmes. C'est pas la même chose avec les femmes. Il faut être plus direct.
C'est ça.
Il y a une autre façon
de
faire.
Il y a un langage masculin que même les intervenants doivent apprendre à décoder.
Et c'est pas si ancré encore. Ça fait pas si longtemps qu'on parle de cette approche-là un peu différente.
S'il y a quelque chose de tabou, c'est qu'il y a peu d'intervenants masculins qui travaillent dans ce milieu-là.
Mais ça prend pas nécessairement juste des... Si les femmes sont bien à l'aise avec l'approche que ça prend, c'est une approche différentes envers les hommes.
Mais c'est vrai que ça manque un peu aussi.
Oui. M. Vigneault poursuit en disant « Il faut tenir compte des réalités et réticences masculines pour intervenir de manière efficace auprès d'eux. Psychologues, universitaires et intervenants sociaux proposent des pistes pour mieux cerner et aider les hommes. Comme par exemple parler homme, comme si c'était une langue. La psychologue Brigitte Lavoie nous dit « Les techniques d'intervention ont été développées à partir de la recherche faite avec des femmes. » Plutôt que se faire parler d'émotions, les hommes seraient plus sensibles à des interventions qui parlent de reprendre le contrôle ou de se remettre sur la bonne traque, comme on dit en québécois. Oui,
puis régler le problème de suite.
oui,
de ne pas laisser traîner, quand ça c'est presse, sûr, quand on est capable.
Apprendre à parler hommes, c'est aussi apprendre à les entendre, nous dit-elle. Alors qu'elle était stagiaire, elle a été dépêchée auprès d'hommes qui avaient vécu un accident minier. Et l'un d'eux s'était exclamé, et je cite, et je m'excuse à l'avance, mais il avait dit « Christ, qu'on va être content de voir nos femmes et nos enfants ». Elle n'a pas tout de suite saisi l'importance de cette phrase. C'est son superviseur qui a fait remarquer que cet homme venait de dire qu'il avait eu peur de mourir et que ça lui avait fait réaliser à quel point sa femme et ses enfants comptent pour lui. Est-ce qu'on est capable d'entendre ce que les hommes disent dans leur langage? Faites encore valoir... la psychologue. Maintenant, je vais sauter À la fin de l'article complètement, parce qu'on donne des numéros de téléphone, des organismes à rejoindre.
Et d'ailleurs, tu vas les dire, là, c'est sûr, c'est un peu rapide, mais ces numéros-là se retrouvent sur notre site. Donc, il y a un onglet là, pour les infos mentionnées à l'émission, vous pourrez les retrouver. Là.
Oui. Alors, il y a Telle Aide, qui est un soutien téléphonique, mais ça, c'est pour tout le monde. C'est dans le 514 au 935-1101. Il y a Père Séparé, qui offre un soutien juridique et des groupes de discussion. C'est dans le 514 au 254-6120. Il y a aussi Service d'aide aux conjoints, un service d'aide, d'information et de soutien pour hommes en difficulté conjugale. C'est au 514 aussi, au 384-6296. Il y a aussi Entraide pour hommes au 450-672-6461. Il y a Réseau Hommes Québec, un groupe de soutien entre hommes dans la région de Montréal au 514-276-4545.
Et comme je le dis, on peut aller voir sur notre site web antenne.qc.ca pour les références. Merci beaucoup Pierre, merci Ghislain pour ce sujet, la santé mentale au masculin à Folie Douce.
Rappelle-toi les premiers concerts quand tu rappais dans le tromé. Le bas qui sale, les passants qui te matait comme si t'étais paumé. Le grec qu'on divise en sept parce qu'on a rien mais qu'on s'est donné. L'espoir même dans 9 mètres carrés que ton heure de gloire a sonné. Comme en plein océan, c'est sur un radeau que tu t'étais embarqué avec tes gens, rien qu'un petit radeau. Jamais senti yo. Des poteaux éphémères, le temps d'un tube pété. Les filles faciles en quête de flash et d'un bout de célébrité. Les jaloux fâchés que tu fasses ce que n'ont jamais su mériter. Comme en plein océan, suffit d'un radeau. Suffit d'embarquer avec tes gens, rien qu'un petit radeau. Et tu te seras jamais senti yo. Senti haut, si fort. Non, jamais senti haut, si fort. Non, jamais senti haut, si fort. Ça m'a roulé. Oui, contre vents et marées, faut pas flipper. Ça va rouler. Tant que tu gardes le cap, comment dériver. Ça va rouler. Oui, contre vents et marées, faut pas flipper. Ça va rouler. Comme en plein océan, suffit d'un radeau. Et tu te seras jamais senti aussi fort. Non, jamais senti aussi fort. Non, jamais senti aussi. Jamais senti haut, si fort. Haut, si fort. Non, jamais senti haut, si fort. Non, jamais senti haut, si fort. Non, jamais senti haut, si
De retour au micro à Folie Douce pour en savoir plus sur les difficultés émotionnelles.
Toujours en compagnie du docteur Yves Lamontagne. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui à l'émission Folie douce. Vous nous recevez, en fait, c'est nous qui devons vous remercier de nous recevoir.
Ça me fait plaisir.
Oui. On a parlé, donc, dans le premier, dans la première partie, un peu de votre carrière qui s'échelonne quand même sur plusieurs dizaines d'années en termes de psychiatrie, mais beaucoup plus loin que ça. Vous avez réussi à la fois à faire affaire avec des patients, avec des gens qui avaient des problèmes de santé mentale, mais aussi d'éduquer la population, ce qui est important, ce qu'on parlait tantôt dans la première partie. J'aimerais savoir un peu où est-ce qu'on en est, d'après votre expérience, d'après ce que vous voyez, où est-ce qu'on en est au Québec? Est-ce qu'on est en avance, en retard? Est-ce qu'on a évolué assez, tu sais, par rapport aux autres sociétés en termes de santé mentale?
Oui, on évolue. Ce qui me vient quand vous venez de dire, c'est toujours quelque chose que mon mentor à Londres m'avait dit. Il m'avait dit, Lamontagne, never forget, research, it's research, business and show business.
Ouais.
Puis c'est toujours ça que j'ai appliqué quand je faisais de la recherche. Il ne faut pas oublier que de la business, parce qu'on n'a pas de subvention, on ne fait pas rien.
Ouais.
Puis le show business, si on va présenter nos trucs dans un congrès, puis qu'on floppe complètement dans le congrès, ben on ne sera pas publié.
Non.
Alors donc, c'est ces trois choses-là. Et le show business, comme je vous dis, moi j'avais gagné mes études en faisant de la musique. C'était assez facile. En tout cas, c'était plus facile pour moi probablement de faire ça.
Ouais.
Tout ça m'a amené avec l'information au grand public. Puis de nos jours, on en a plus d'informations au public. Je regarde même des téléromans actuellement où il y a, je pense, entre autres, un téléroman là, où la petite fille est maniaco-dépressive.
Oui,
là,
c'est bon, vrai.
C'est lâcher prise, c'est exact, ça, c'est comique,
exactement.
Mais il y a une façon de maladie mentale, oui, là-dedans. Puis dans d'autres téléromans, c'est un peu la même chose. Donc, il y a du développement. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Est-ce qu'il y a plus de maladies mentales qu'avant? Moi, je pense que oui, malheureusement. Pourquoi? Parce que la société est très demandante. Hein? On presse le citron, puis quand il n'y a plus de jus, on discarte, puis on en prend un autre. D'où on retrouve les problèmes de santé mentale au travail, par exemple. Augmentation des burn-out, augmentation de l'anxiété, augmentation de la dépression dans les milieux de travail, ce qu'on n'avait pas, évidemment, il y a 50 ans passés. Donc, vous voyez, à mon avis, la vie amène de nouveaux problèmes de santé mentale qu'on ne connaissait pas il y a 25 ans passés. Et malheureusement, devant ça, bien, on n'a pas toujours toutes les ressources pour faire face à ça. Exemple, je suis convaincu qu'il manque encore de psychiatres. Avoir accès à un psychiatre, c'est extrêmement difficile. Je pense qu'on devrait développer, parce qu'il y en a dans d'autres spécialités, on devrait développer des infirmières praticiennes spécialisées en psychiatrie qui pourraient déjà donner un bon coup de main aux équipes psychiatriques. Alors, voyez-vous, c'est des choses qu'on pourra faire au moins avec la main-d'œuvre qu'on a. Puis il y en a des infirmières qui sont super capables, puis ont assez d'expérience, même depuis les années qu'elles travaillent en psychiatrie, qu'elles pourraient faire beaucoup plus qu'elles ne le font actuellement. Donc, ça allégerait le tout.
Ça libérerait les psychiatres pour les cas peut-être plus importants. Là,
voilà. C'est ça? Alors, c'est un peu ça. Il y en a déjà des infirmières praticiennes spécialisées, ouais, mais dans d'autres spécialités. Alors, on devrait avoir ça aussi en psychiatrie, ça aiderait beaucoup. Avec le médecin de famille, il y a des arrangements qui se font de plus en plus entre les psychiatres et les médecins de famille par de la supervision, etc. C'est très bien.
Mm-hmm.
Donc, vous voyez, il manque de la main-d'œuvre encore là, ou il y a de la main-d'œuvre qualifiée qui ne sert pas autant qu'elle devrait servir. Ça manque encore.
Ouais.
De telle sorte que quelqu'un qui a un problème de santé mentale, c'est extrêmement compliqué, finalement, d'arriver à un traitement. Et si vous avez besoin d'une consultation avec un psychiatre, ça peut prendre des mois. Donc, pendant ce temps-là, où vous vous détériorez, où votre problème est passé. Mettons de l'anxiété, vous pouvez apprendre une technique de relaxation. Tant mieux, c'est ça, remarquez.
C'est ça.
Mais c'est pas toujours le cas, par exemple.
Ça va pas tout régler non plus.
Non, tout à fait. Alors, vous voyez, à mon avis, malheureusement, à cause de la société, à cause de la pression avec laquelle on vit, bien, les tendances ont tendance à augmenter.
Oui.
Je pensais, par exemple, prenez juste les phobies. Je dis un peu à la blague, d'ici 50 ans, on va se retrouver avec la phobie des capsules vers la Lune, parce qu'il y a du monde qui va y aller.
Oui, c'est ça.
Puis ils vont développer une phobie de ça. Oui. Voyez-vous, comme oui, il y a aujourd'hui la phobie des avions, par exemple.
C'est alors qu'il n'y en avait pas il y a 100 ans.
Voilà. Alors, il y a des nouvelles phobies,
ouais,
nécessairement qui vont se développer dans ce sens-là.
Ouais.
Et qu'il va falloir traiter, bien sûr.
Pensez-vous, c'est sûr que vous n'êtes plus dans le domaine si rapproché, mais pensez-vous que le Québec est quand même bien en termes d'approche, ça, parce qu'on compare souvent, je ne sais pas, avec la France, l'Italie, d'autres,
oui,
pays. Tu sais, on parlait qu'en Italie, certains hôpitaux psychiatriques ont été fermés, puis ils ont réorganisé la première ligne, en fait. Comment on se situe au Québec?
Oui, je connais bien ça, le côté italien. Oui. Mais juste, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment encore la culture, c'est différent. Ils ont fermé les hôpitaux psychiatriques, puis on a envoyé malade dans leur famille. Mm. Et les Citaniens, ils acceptent d'avoir leur malade dans leur famille. Tout comme vous ne trouvez pas de centre d'accueil pour les personnes âgées en Italie parce que les malades gardent leurs vieux dans leur famille.
Oui, c'est ça.
Alors, vous avez déjà une question de
c'est
culture.
Culture, c'est
voilà.
Exactement.
Ce qu'on n'a pas ici, hein, souvent, moi, je dis malheureusement, hein, on parque nos vieux dans des centres d'accueil. Puis une fois qu'on sent qu'ils sont safe là, bien, c'est connu, là. Hein? Il y a même du monde qui ne vont pas y voir. Alors, c'est toute une autre mentalité. Là.
Responsabiliser les familles, responsabiliser la société. Puis les familles, des fois, sont débordées par tout. Comme exact. Vous disiez tantôt, il y a du stress ben partout oui. au travail et tout. Mm-hmm. Mais
là, c'est vrai, vous arrivez même là où on devrait avoir plus de soins à domicile.
Oui, exactement.
Pour faire en sorte que le malade reste à domicile, s'il reste dans sa famille, mais qu'on s'en occupe, qu'on ait les ressources, travailleurs sociaux, etc., qui peuvent s'en occuper quand ils sont à domicile.
Exactement. Quand on parle, souvent, il y a une question qui a été soulevée. On dit, par exemple, on essaie de faire, avec la campagne de Bell et tout ça, ce qui n'est pas nécessairement une erreur, mais je me demandais un peu votre opinion là-dessus. On essaie de dire, quand quelqu'un a un cancer, quand quelqu'un a le diabète, quand quelqu'un a un mal à une jambe, mm-hmm. on ne fait pas de cas. Quand quelqu'un a une santé mentale, on trouve toujours que c'est un peu bizarre. Est-ce qu'on fait erreur en traitant la santé mentale comme n'importe quel problème de santé? Parce que c'est plus complexe que la santé. Est-ce qu'on va pas comme un peu rendre ça un peu, comment je dirais ça, simple? Là, dans le sens que la santé mentale, c'est différent de la santé physique. Est-ce qu'on fait erreur en comparant
oui.
les deux?
Non. Je vous dirais que je ne parlerai pas contre Bell parce qu'ils ont été bien gentils avec la Fondation des maladies mentales.
Non, absolument.
Mais néanmoins, je pense que moi, j'ai toujours prôné que les maladies mentales, c'est la même chose que les maladies physiques. Parce que la journée qu'on comprend que c'est la même chose, bien, là, le tabou déjà s'éloigne. Hein? Puis on le sait de plus en plus. Puis j'ai toujours dit, ça a changé ça, quand les scanners sont arrivés. Puis on passait des scanners à des schizophrènes. Puis on dit, bien, regardons ça, le cerveau de ces gens-là, il n'est pas fait pareil comme les cerveaux des autres. Bien là, on arrêtait de dire que c'est un sort du bon Dieu.
Ouais,
puis que c'était un tout croche.
C'était inventé.
Oui. Alors, vous voyez, ça a amené un peu vers la médecine physique.
Ouais.
Alors qu'avant, on était comme à côté. Puis les fous, tu touches pas à ça. Alors moi, je crois au contraire. Que les maladies mentales, puis ça devient un peu comme ça, là, que ça soit vu vraiment comme une maladie physique. Et de plus en plus, vous allez voir que ça va devenir comme ça pour une raison bien simple. La pharmacologie se développant davantage, on va arriver à de meilleurs médicaments qui vont pouvoir traiter le malade plus vite. Et surtout, on le voit comparativement quand moi j'ai commencé à faire de la psychiatrie, beaucoup moins d'effets secondaires qu'on avait à l'époque.
Mm-hmm.
Et ça, c'est un plus, vraiment.
Oui. Docteur Lamontagne, est-ce qu'on peut penser qu'un jour les tabous seront complètement éliminés de la santé mentale, un peu comme, tu sais, il n'y a pas de tabou quand on parle de santé physique, à peu près pas. Donc, est-ce que ça va être éliminé un jour?
Oui, je le souhaite. Je le souhaite. Demain, je ne peux pas prédire l'avenir. Je pense que ça va aller de plus en plus en s'améliorant. Mais si on n'a pas les ressources suffisantes, comme je vous disais tantôt, pour correspondre, il risque qu'on ait une polémique en disant, voyez, on a beau avoir, de connaître les maladies mentales, d'être capable d'aller les traiter, mais le monde qui devrait s'en occuper, ils ne sont pas là. Et c'est un peu ce qu'on reproche aux médecins en général actuellement quand on va regarder ça, hein?
Ouais.
L'accessibilité aux soins.
Ouais.
Le fait là, que ça sort, là, les médecins pensent juste à leur argent, mais ils ne pensent pas à nous traiter parce qu'on n'est pas accessible. Alors, moi, ma crainte, c'est que si on n'est pas capable de répondre à la demande, il risque que ça arrive. Donc là, ça ne serait plus une question que les maladies mentales sont vues comme d'autres. C'est dire qu'on n'est même pas assez bon pour être capable de répondre à la demande.
C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un creux, tu sais, comme vous parliez du creux, on pourrait dire on a fait tout ce qu'on pouvait faire, puis là, il y a comme un désintéressement peut-être de la société.
C'est ça.
C'est ça. Ouais. C'est inquiétant quand même.
Comme vous voyez, une autre chose que je pense, ça va venir, là, malheureusement, la légalisation de la marijuana.
Oui.
Regardez bien ça. Le budget, ça n'a pas augmenté, mais j'espère qu'ils vont en mettre parce qu'ils vont en avoir des effets secondaires néfastes. Ils vont en avoir qu'ils vont faire des psychoses là-dessus, des psychoses toxiques puis tout ça.
Parce que on banalise un peu, veut pas, en la rendant légale, on veut faire du bien, on veut comme retirer peut-être l'argent au crime organisé, puis on veut s'assurer peut-être de la qualité des. Mais sauf que le contre-coup, c'est ça.
Il y en a qui vont décompenser, c'est sûr. Puis le crime organisé, quant à moi, là, ils lâcheront pas, eux autres. Ils vont trouver d'autres cochonneries pour vendre aux jeunes à meilleur marché que ce qui va se vendre sur le marché public.
Oui. Docteur Lamontagne, on prend notre boule de cristal, mais dans le fond, c'est un peu l'exercice d'un peu de peut-être de fabuler ensemble, là, mais dans 100 ans, là, les écrits qui vont se dire sur la santé mentale des années 1900-2000, on va, tu sais, dans 100 ans, ils vont dire quoi sur nous, tu sais, qu'est-ce qu'on souhaite, qu'est-ce qu'on aimerait que ça devienne dans 100 ans, tu sais?
Bien, au fond, ce qu'ils vont dire sur nous autres, probablement, c'est qu'on était très artisanal, puis qu'on était des balbutiements.
On essayait des choses.
Ils vont avoir de meilleurs moyens que nous autres, probablement.
Ouais.
Toute la technologie va jouer là-dedans. Je voyais récemment là, un programme pour la dépression et l'anxiété chez des jeunes que vous retrouvez dans votre appareil de téléphone, dans votre iPhone, que vous pouvez... Ça va pas bien, puis vous tenez sur l'iPhone, puis vous dites tout de suite quoi faire.
C'est ça.
Dans 100 ans, imaginez ce que ça va être. C'est infini.
À des années-lumière.
Ah, c'est infini. Je veux dire, il va y avoir des possibilités qu'on n'a pas, puis que ça va prendre du temps. Ça ne prendra pas du temps, mais qu'on a, c'est déjà commencé.
Oui, c'est ça.
Et ça va aider.
Oui.
Évidemment, plus vous commencez, hein, c'est toujours la même chose, autant en santé mentale qu'en santé physique. Plus vous prenez le problème au début, meilleur est votre pronostic. Plus vous le prenez tardivement, moins bon le pronostic. Puis c'est la même chose en santé mentale qu'en santé physique.
Ouais. Avant de terminer, on a encore une minute ou deux. Vous voyez des gens d'aujourd'hui qui s'intéressent à la santé mentale. Qu'est-ce que vous leur suggérez? Tu sais, quelqu'un commence sa carrière, que ce soit comme médecin ou comme intervenant ou comme infirmière. Ou les gens, il y en a qui sont passionnés par ce domaine-là. Mm-hmm. Justement, voient les défis un peu que vous voyez quand vous avez choisi cette profession-là. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Moi, je leur dirais que la première des choses, non seulement en santé mentale, mais en médecine, il faut être humain. Et ça, malheureusement, je pense que ça se perd. Depuis qu'on a une médecine d'État, le patient devient un client, devient un bénéficiaire. Il n'est plus un patient. Il n'y a pas d'honte d'être un patient. Et donc, puis je l'ai vu même chez les étudiants à l'université, là, on perd cet humanisme-là. Moi, je dis tout le temps, avant moi, on entre en médecine comme en religion. Moi, quand je suis entré en médecine, c'était une profession, puis maintenant, c'est comme un métier. Et je ne déprécie pas les métiers, remarquez.
Non.
Mais l'humanisme et le professionnalisme s'opèrent quant à moi en médecine.
Ça prend des
et
gens.
Ça, c'est un peu malheureux.
Ouais, ça prend des gens qui continuent à garder cette flamme-là.
Ben
de
oui,
dire,
puis qui croient en l'humain.
Ouais.
Puis l'humain, c'est pas une machine. Vous savez, des fois, là, les gens se pointent là, chez le médecin, et puis c'est bien documenté, 8 minutes, puis vous sortez de là avec un test de laboratoire et des pilules.
C'est ça. C'est dommage.
La relation médecin-malade, là, en 8 minutes, là, c'est
non.
pas fort. Là.
Non. On se souhaite, en tout cas, une meilleure société aujourd'hui et pour demain. Merci
ouais.
beaucoup, Yves Lamontagne, docteur Yves Lamontagne. C'était vraiment agréable, enrichissant. J'espère que nos auditeurs aussi ont beaucoup apprécié. Merci beaucoup de nous avoir reçus chez vous.
Bien, ça m'a fait plaisir.
Au revoir.
Plaisir. Bye-bye. Et chaque jour tu meurs.
Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème! Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca. antenne.qc.ca.
En conclusion de ce rendez-vous de Folie douce, donc première émission à Canalem, Malo en ma compagnie, on va faire la nomenclature des chansons, c'est notre habitude, donc les chansons qui sont présentées à chaque semaine. On a écouté en début d'émission « Que je m'envole »
de Amélie.
On a pu entendre « Family Situation »
de DJ Champion.
On a pu entendre dans la deuxième demi « Aussi fort »
de Fefe.
Et à l'instant « Soyons sauvages »
d'Ariane Zita.
Merci beaucoup pour votre choix musical. Merci. À toi et à Pierre. Merci Pierre à la mise en onde.
Bienvenue.
Merci également pour ton bloc Espresso. Tu nous as parlé de santé mentale au masculin. On a appris beaucoup de choses. Merci beaucoup. Et je remercie notre invité qui a été très généreux. Il nous a reçu chez lui. En fait, le docteur Yves Lamontagne. On a pu pré-enregistrer une entrevue avec lui. C'était fort intéressant. Et comme tu le dis si bien, Pierre, je pense qu'on a eu un bon café en plus qu'on est allé chez lui.
On a le goût d'y retourner.
Absolument. Merci beaucoup à Yves Lamontagne. C'est Yvan Bugeois à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine de Folie douce. Au revoir.